За картинами мы непосредственно ухаживаем. Где-то раз в неделю мы делаем влажную уборочку картин.
Surveiller les tableaux, d'occuper les tableaux, et une fois par semaine, on fait le ménage ici. On essuie la poussière des tableaux, et plus on surveille les visiteurs, on ne répond pas aux questions, mais on surveille pour qu'ils ne touchent pas, pour qu'ils ne crient pas, pour qu'ils se comportent comme il faut.
Un dromadaire sur l'épaule, Cyril Desprats et Monsieur T.
Bonjour à tous et merci de prendre avec nous la route du Kirghizistan. Le Kirghizistan qui lui aussi était aux urnes ce dimanche. Près de 80% de la population a adopté une nouvelle constitution dans un contexte d'instabilité politique assez incroyable puisque c'est la quatrième fois depuis le début de l'année que le pays change de texte fondamental. À l'origine de cette instabilité, de ce chaos même, disent certaines dépêches, le conflit entre le Parlement kirghiz et le président Bakiev au pouvoir depuis 2005. Avec cette nouvelle constitution, c'est le président qui reprend l'initiative. Il a annoncé du coup hier la dissolution du Parlement. Des élections anticipées devraient avoir lieu en décembre. Nous évoquerons cette actualité politique en seconde partie d'émission avec un téléphone à Boris Petri, qui est ethnologue au CNRS, il est spécialiste de l'Asie centrale, où il séjourne régulièrement, notamment au Kirghizistan depuis 2002. Il nous parlera de la transition entre communisme et libéralisme, transition difficile au niveau politique, catastrophique au niveau économique et puis un peu surréaliste au niveau géostratégique puisque le Kirghizistan est un des seuls pays au monde à avoir aujourd'hui sur son sol une base militaire russe et une base militaire américaine. Boris Petrik dans une trentaine de minutes donc. Et puis là, on va retrouver les rues de Bishkek, la capitale kirghize, avec le deuxième feuillet du carnet de route de Mathilde Gohanek et de Camille Magnard, accompagnés de leur traductrice Eygul.
На музее остановите, пожалуйста. Здесь. Eh oui, en Bishkek, la capitale du Kyrgyzstan, on se déplace en marche Rutka. Alors qu'est-ce que c'est la marche Rutka exactement, Mathilde?
C'est un minibus qui sert de transport en commun, donc il sillonne toute la ville. Marche Rutka 144, 152, 206, 209. Il est impossible de savoir l'ensemble des marches Rutka qui circulent dans Bishkek, mais c'est bien pratique, ça remplace les bus que l'on voit dans les capitales européennes.
Donc la marche Rutka, c'est très simple. On se met au bord de la rue, on arrête la marche Rutka qui va dans la direction où l'on veut aller. On monte, on paye 5 sommes. Se faufiler entre les passagers qui remplissent les couloirs de la marche Rutka. Une marche Rutka, c'est à peu près 8 places assises et ça peut monter jusqu'à, disons, une trentaine de passagers entassés les uns contre les autres aux heures de pointe. On n'en est pas là, mais il faut quand même se faufiler pour aller jusqu'au chauffeur et lui demander de s'arrêter. Astana Vitié, c'est le mot magique. Et il nous dépose où l'on veut.
En l'occurrence, là, on va donc au musée des Beaux-Arts où nous attendent les babouchkas que nous cherchons à rencontrer aujourd'hui à Bishkek. Nous sommes descendus de la marche Rutka, on est là devant le musée des Beaux-Arts de Bishkek, donc le musée des Beaux-Arts du Kirghizistan, parce qu'il n'y en a pas d'autres. On est face à l'opéra, qui est un des vestiges de l'Union soviétique, tout comme à côté de nous, le musée historique, qui est derrière le musée des Beaux-Arts, la grande poste, bien sûr, le grand magasin d'État, Tsoum, le grand magasin général, et donc ce musée des Beaux-Arts du Kirghizistan, qui est un énorme bloc de béton sans fenêtre, assez austère, tout comme l'ensemble des bâtiments soviétiques ici à Bishkek.
Je crois qu'il y a cinq musées des Beaux-Arts qui ont été construits dans les républiques soviétiques à la même époque, dans les années 60-70. Cinq sur le même modèle, et donc Bishkek a hérité d'un de ceux-là. Un bâtiment assez impressionnant, c'est vrai qu'il donne un peu cette impression d'austérité et de grand calme froid. Il va falloir pousser les portes pour voir ce qu'il en est vraiment. Voilà, à peine on passe les portes du bâtiment, on est accueilli par un grand hall couvert des tableaux qui sont les tableaux de la boutique, du magasin, du musée au rez-de-chaussée. Puis en face de nous, un grand escalier décoré d'une mosaïque de pur style soviétique. Et puis, tout de suite, dès qu'on passe la porte, on est accueilli par les voix des dames qui sont les gardiennes de ce musée. Donc elles ont leur petit banc, leur petit coussin, et puis elles restent là, souvent à discuter, à regarder les gens passer. Et il y en a peu des gens, hein. On est choqué tout de suite en entrant dans le bâtiment par la grandeur des espaces et le peu de visiteurs qui ont l'air de se presser ici autour des tableaux. Essayons de voir avec elles qui sont justement la vie de ce grand bâtiment en apparence un peu vide, un peu mort, essayons de voir avec elles quelle est la vie qui se cache derrière ces murs. Pour ça, il va falloir monter le grand escalier de marbre. Passer donc cette mosaïque bleue et jaune au motif plutôt abstrait. Et accéder en haut des escaliers aux différentes salles d'exposition qui sont là. Sur notre droite, il y a la salle des arts appliqués kirghizes avec ses tapis de feutre et ses différentes broderies anciennes qui sont le patrimoine kirghize. Et puis à droite, l'art contemporain russe et kirghize. À gauche, l'art russe et puis les salles d'exposition. Et au centre de la pièce, encore une fois, on rencontre la responsable de l'étage.
Вот там вы были в зале. Давайте я вот туда вас свожу.
Est-ce que vous étiez dans la salle d'à côté? Si vous voulez, elle peut nous accompagner.
За что я в ответе? Вот этот вот зал, я за него в ответе, я расписываюсь. Вот этот вот зал, тоже я за него расписываюсь. И вот это вот абсолютно все.
Je suis responsable de la salle de l'art appliqué, plus de la salle de peinture.
Est-ce qu'on peut s'asseoir un moment pour discuter ensemble, ici ou ici?
Пожалуйста, вон у нас стулья есть.
Voilà, on s'est installé sur des petits tabourets au centre de la pièce. Comme ça, on a une belle vue sur l'étendue du domaine de notre première babouchka. Est-ce qu'elle peut d'abord nous dire un peu qui elle est, son nom, depuis combien de temps elle travaille ici?
Зинаида Константиновна. Я работаю здесь 7 лет.
Elle travaille ici depuis 7 ans. Тогда, parce que c'est après la mort de son mari, elle était obligée de travailler.
По необходимости работать.
Donc ça fait 7 ans qu'elle travaille ici. Avant, elle était retraitée, elle ne travaillait plus.
Раньше я работала на обувном предприятии 44 года.
Elle a travaillé dans l'entreprise de production de chaussures pendant 44 ans.
Et alors comment elle s'est retrouvée ici? Pourquoi elle est venue travailler ici quand son mari est décédé?
Почему я здесь? Во-первых, пока еще муж у меня болел, я до его смерти...
Avant sa mort, elle était en retraite pendant 17 ans. Donc, comme elle était invalide de la guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, elle était invalide de premier groupe, elle s'occupait de son mari.
Et ici, c'est un bon travail pour une personne qui est retraitée?
Ну, для пенсионеров хорошая работа. Физического труда нет, но единственное, что...
Bien sûr que c'est un bon travail pour une personne qui est en retraite de travailler ici au musée, car il n'y a pas de travail physique, mais et je dois juste dire une chose, il n'y a pas de l'air fraîche, car c'est pas bien pour les œuvres, pour les tableaux, l'air fraîche, l'air fraîche me manque un peu.
Это же отвлекает от разных дум, от болезней, от всего.
Pour elle, son travail, c'est la distraction des différentes mauvaises pensées, des différentes maladies.
C'est quoi son style d'art préféré, l'art russe, l'art kirghize, l'art appliqué?
Много картин, которые поднимают настроение. Особенно я люблю природу.
J'ai beaucoup de tableaux que j'aime beaucoup. Mais j'adore la nature. Les tableaux où il y a de la nature. Parce que moi, j'étais très peu dans la nature.
Elle a grandi à Bishkek?
Я родилась не в Бишкеке, а в Казахстане. Потом родители переехали вот сюда. И здесь вот всю жизнь живем. И папа у меня умер очень рано. Еще папе было 41 год.
Я не родилась в Бишкеке, я в Казахстане. Et c'est après qu'on est là, mes parents sont déménagés ici en Kyrgyzstan. Mon père, il est décédé très tôt, quand j'avais 11 ans, il est décédé à l'âge de 41 ans. Et pendant cette période qui était très difficile, on était trois enfants dans la famille. Et c'était des Kyrgyz qui nous ont beaucoup aidés. Ils apportaient des sacs de pommes de terre, des carottes. Et c'était des Kyrgyz qui nous ont beaucoup aidés. Et je ne peux rien dire de mauvaises choses.
Elle, elle est fière de porter les motifs kirghiz et de garder toutes ces œuvres kirghizes.
Горжусь, что вот вот приходят, если бы вы видели, художники приходят, они ко мне в первую очередь подходят. Здравствуйте.
Je suis très fière de porter ce costume national, de garder les tableaux kirghizes. Je suis très heureuse quand les peintres ils viennent et ils viennent tout de suite à moi, ils disent bonjour, ils parlent avec moi. Donc c'est vraiment, ça me rend heureux.
Alors nous sommes arrivés dans une nouvelle salle. Je crois que c'est la salle des arts kirghizes aussi, des arts kirghizes période soviétique. Là, il y a encore une nouvelle dame, mais je crois qu'on ne va pas la déranger. Parce que pour l'instant, j'ai l'impression qu'elle dort.
Je crois qu'elle s'est réveillée.
Ah, on va peut-être pouvoir aller la saluer alors. Petit tabouret pour... Non, viens, ça décide. Voilà, on va se prendre... Bon, on va s'installer tranquillement.
Oui,
à cause de maladie, elle n'entend pas bien.
Oui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens dans ce musée, beaucoup de dames qui sont gardiennes ont l'air un peu malades.
Non, у меня давление 180-200. Я вот и работаю.
Elle a une pression 180 sur 200. Elle est en train de travailler quand même.
Пенсия маленькая, не хватает. Ну вот пошла. Вообще-то я всю жизнь работала медиком в больнице. А вот два года работаю вот здесь.
Да. Toute ma vie, je travaillais comme un médecin à l'hôpital et depuis deux ans, je travaille ici.
Alors, à quel moment est-ce qu'elle est venue travailler ici comme smatritielle, comme gardienne de salle au musée?
Ну, я уволилась, потому что брату сделали операцию очень сложную. Лежала в больнице с Лафа.
Il a un frère, et il était gravement malade, on lui a fait une opération, et puis elle était obligée de quitter son travail de médecin, et puis de s'occuper de son frère. Et comme ça, elle n'a pas travaillé pendant 4 mois. Et puis après, ce n'était pas la peine de revenir travailler comme médecin. Et puis, elle est venue ici comme smatritielle.
Et là, on la voit seule sur sa chaise dans sa grande salle. Ça ne lui manque pas de voir du monde maintenant qu'elle travaille ici?
Au début, c'était vraiment difficile. Et mon travail de médecin me manquait beaucoup, car à l'hôpital, il y avait beaucoup, beaucoup de travail. On ne pouvait pas rester sur la place tout le temps. Il y avait beaucoup, beaucoup de mouvements. Et quand je suis venue ici, c'était un peu sauvage pour moi, parce que je n'avais rien à faire. Il fallait juste s'asseoir, surveiller les gens qui viennent. Et surtout quand il y a des enfants, il faut surveiller pour qu'ils ne touchent pas, ne fassent pas de bruit.
Ce n'était pas possible de vivre avec une pension de médecin, de vivre sa retraite tranquillement, sans travailler?
Non, я же, вот смотрите, 43 года проработала, да еще так 15 лет работаю. Каждый год нарастает эта пенсия.
Хоть немножко, но прибавляет. C'est difficile. Je travaillais pendant 43 ans à l'hôpital et puis de plus après, je travaillais 15 ans. Mais vous savez bien que chaque année, on ajoute un petit peu à mon salaire. Malgré tout, c'est très difficile parce que la vie est chère. Il faut payer à gaz, à l'électricité, pour l'appartement. Et de plus, cela prend à peu près 800-700 700 sommes et le reste c'est pour la nourriture.
Et sa famille s'occupe d'elle ici, elle vit avec sa famille?
Сына жена умерла. Теперь у меня внук воспитываю я. Вот, внук со мной живёт.
Son mari est décédé, la femme de son fils est décédée aussi. Son petit-fils qui a 17 ans, c'est elle qui s'occupe de son petit-fils. Et tous les trois, ils habitent ensemble.
Alors elle a oublié de nous dire, on a parlé comme ça tout de suite, mais elle a oublié de nous dire son prénom, son nom, son âge, depuis combien de temps elle travaille ici alors?
Полина Ивановна. Полина Ивановна, 75 лет.
Je m'appelle Полина Ивановна, j'ai 75 ans.
Quel plaisir, quelle satisfaction ça lui apporte de travailler ici parmi toutes ces œuvres d'art?
Ну, работа нравится. Ну, как тут ответить? Ну, я даже не это, просто так вот я скажу, но только не в это.
Même si on aime, si on n'aime pas, il faut travailler. Il faut vraiment travailler parce que c'est le temps, il faut travailler.
Donc l'art, ça ne l'intéresse pas particulièrement?
Как вы сказали, как вы говорите, мне больше нравится медицина. Вот. А уж тут, как говорится, нужно работать и все.
Moi, personnellement, j'aime bien la médecine. Et ici, il faut travailler, c'est mon travail.
Мы их каждый день смотрим. И иногда вот так вот проходит, ничего не зная. А я ей говорю, вот это, вот это, это, вот это,
Je regarde les tableaux chaque jour, mais quand il y a des visiteurs qui passent à côté d'un tableau, et je les arrête et je lui conseille de regarder plus attentivement tel ou tel tableau, parce que c'est très joli, j'explique à qui ça appartient. Par exemple, regardez le tableau qui s'appelle « La fille de Kirghizie soviétique », c'est un tableau qui est connu de Tchoukov. Et comme ça, elle aide aux visiteurs de faire plus attention aux tableaux, aux arts. On ne nous permet pas de faire ce genre de travail, d'expliquer, de parler sur les tableaux, mais quand même, en cachette, on fait ça, on explique, on montre aux gens quel tableau est meilleur.
Ça, c'est les petites cachotteries des gardiennes.
Toutes ces choses sur les tableaux, c'est des choses qu'elle a apprises ou juste qu'elle aime?
Тут живо поясняют преподаватели, экскурсоводы. Я же стою, слышу, как они говорят, и все.
J'écoute attentivement des guides, je l'entends bien, et comme ça, petit à petit, j'apprends.
Voilà encore une nouvelle salle. Je crois que c'est la salle des arts russes, dans des tableaux beaucoup plus classiques, avec des portraits de la noblesse tsariste, qui nous accueille dans cette salle, et puis une nouvelle personne. Toujours la chaise, entre deux tableaux, et la gardienne est là.
Смотрите этого зала, я, да. Валентина Петровна.
Je m'appelle Valentina Petrovna, je suis responsable de cette salle russe et chez nous on dit smotritel, ça veut dire surveillante.
За картинами мы непосредственно ухаживаем. Где-то раз в неделю мы делаем влажную уборочку картин.
Surveiller les tableaux, d'occuper des tableaux, et une fois par semaine, on fait le ménage ici, on essuie la poussière des tableaux, et plus on surveille les visiteurs, on ne répond pas aux questions, mais on surveille pour qu'ils ne touchent pas, pour qu'ils n'écrivent pas, pour qu'ils se comportent comme il faut.
Elle était déjà là pendant l'Union soviétique, elle était déjà surveillante de ce musée?
У меня была другая специальность.
Pendant l'OSS, j'avais une autre spécialité. Je travaillais dans les usines.
Пенсию, вот пришла сюда, как бы уже состояние здоровья,
comme
не то, что
retraite,
молодости.
А здесь давно не comme avant. Et comme le travail ici n'est pas trop difficile, je suis venue pour travailler ici.
Alors, elle ne nous a pas dit son âge. Elle doit être une des plus jeunes ici à travailler.
Нет, мне уже 65 лет. Я уже не молодая.
Je peux pas dire que je suis très jeune, j'ai déjà 65 ans.
Est-ce que ce n'est pas trop ennuyeux comme métier de rester ici sur la chaise, dans la salle, toujours la même salle avec peu de monde qui vient ?
Сама по себе работа не скучная, потому что здесь разная публика бывает. Смотришь, обращаешь внимание на молодежь, кто в чем одет и как.
Le travail ici, je peux pas dire qu'elle est trop ennuyante parce que le public à chaque jour, il y a différents visiteurs et comme il y a beaucoup de jeunes filles, elles s'intéressent beaucoup à la mode, comment elles sont habillées. Et là, des petites filles, elles regardent son comportement et elles font des bilans pour elles-mêmes.
Ici, à côté de nous, dans la salle, passe un jeune garçon et une jeune fille. Alors, est-ce que ça lui arrive d'inventer des histoires, de s'imaginer quelle est leur relation ?
Oui, да, конечно, это я наблюдаю, наблюдаю. А сразу видно по поведению.
Вот приходит, je surveille beaucoup, je vois beaucoup. Par exemple, c'est évident si c'est mari ou femme, si ce sont des amis, это сразу бросается в глаза.
Alors, ces deux-là qui viennent de passer, qu'est-ce qu'elle en pense ?
А я даже не видела. Я вот настолько увлечена вами, что я даже не обратила внимания.
Elle n'a pas fait attention parce qu'elle est vraiment passionnée de donner interview.
Il y a beaucoup de jeunes gens amoureux qui viennent ici pour se draguer.
Здесь, по всей видимости, назначают встречи они, потому что приходят с цветочками. Видимо, только были вручены свежие такие букетики.
Parfois, ça arrive qu'ils font lieu de rendez-vous ici au musée. On voit des gens qui viennent avec des fleurs fraîches. Et comme il n'y a pas beaucoup de monde, ils peuvent rester tout seuls dans ces salles. Donc, on le voit tout de suite.
Est-ce qu'elle a des tableaux qu'elle préfère ici, qui lui plaisent, qu'elle regarde souvent ?
Потом вот ещё картина, у нас семья вот там есть. Вон четыре мама, папа и двое детей. Эта картина нравится тем, что там вот глаза настолько сделаны живыми, вот именно сделаны, что это просто не передать.
Вот фотография, полнейшим образом фотография.
Да, естественно, я прихожу, когда утром на работу, я всегда говорю, ну как вы тут прожили, переночевали,
все ли у вас в порядке? Questions, est-ce que vous allez bien, comment vous avez passé la nuit, et elle parle avec les tableaux.
Est-ce qu'elle a toujours sa famille avec elle, en dehors du musée ?
Да, я живу с дочерью,
у которой муж турк. Elle habite avec sa fille, dont le mari est d'origine turque. Elle a deux petites filles de 17 ans et de 11 ans. Et son fils, il habite en Allemagne. Grâce à son fils, elle a eu la possibilité de visiter Paris.
Благодаря чему я была в Париже.
Les grandes salles vides du Musée national des Beaux-Arts avec ses babouchkas, ce sont des Russes en fait.
Ce sont toutes des Russes, oui, malgré le costume traditionnel dont est très fière l'une d'elles. Ce sont toutes des dames russes et c'est vrai que c'est un lieu qui est très, très russe, très marqué, culture russe et soviétique.
Quelle impression est-ce qu'il vous a laissé ce musée ? Quelle impression est-ce qu'elles vous ont laissé ces femmes, Mathilde ?
Bah c'est vrai qu'elles sont seules dans des grandes salles vides, donc surtout des salles de musée qui sont immenses. Elles sont tassées dans un fauteuil au coin des salles. Elles sont malades. Elles sont en fin de vie. Elles sont là pour passer les derniers jours de leur retraite. On pourrait espérer qu'elles seraient chez elles bien au chaud, mais elles sont au musée des Beaux-Arts. Et c'est vrai que c'est une impression assez triste. Enfin, quand on les côtoie, quand on discute, quand on voit quelle est leur vie, ça, c'est pas très réjouissant, c'est sûr.
D'autant qu'il n'y a personne dans ce musée, apparemment, en tout cas, à part de temps en temps des journalistes qui passent.
Très peu de monde, des expositions temporaires qui attirent un peu l'élite culturelle de la ville, ou ce qu'il en reste, mais très peu de visiteurs, quelques écoles de temps en temps, mais rien à voir, nous disait la directrice du musée, avec l'époque soviétique, où le musée avait une place très importante et faisait partie de toute une politique d'accès à la culture populaire.
Alors l'avenir de ces femmes, c'est quoi ?
Travailler et mourir, enfin c'est après bon il y a d'autres situations comme ça hein, mais c'est vrai que elles sont symboliques de toute une génération de vieilles Russes ou vieux Russes qui ont besoin de travailler pour vivre même quand ils ont largement passé l'âge d'être actifs. Donc ils font là c'est gardienne de ce musée mais ça peut être petit marchand de rue,
balayeur
beaucoup, les personnes qui font le ménage c'est très souvent des personnes âgées et c'est des Russes. Parce qu'il n'y a pas un tissu familial et solidaire fort qui fait que les Russes ne sont pas prises en charge par leur famille, à la différence des personnes âgées kirghizes par exemple. Donc elles sont obligées, pour compenser des retraites de misère, de faire des petits boulots comme ça. Et encore là, elles sont au chaud, elles le disent, hein, elles sont assises, elles sont à l'intérieur d'un bâtiment. C'est pas les plus à plaindre, malgré l'impression qu'on peut en avoir. Hein.
La voix de ces femmes du Kirghizistan, voix recueillie dans le reportage de Mathilde Gohanek et de Camille Magnard. Et avec nous, jusqu'à 15h, le plaisir d'accueillir Boris Petrik. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes par téléphone, non pas à Bishkek, mais à Marseille, puisque c'est là où vous habitez. Vous êtes ethnologue au CNRS, vous êtes spécialiste de l'Asie centrale, où vous séjournez régulièrement, notamment au Kirghizistan. Depuis 2002, vous avez écouté via Internet le reportage de Mathilde et de Camille dans ce musée national d'art. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans le témoignage de ces femmes?
Je trouve que c'était intéressant de prendre le contraste en fait de la marchroutka, qui est donc ce petit autobus qu'on prend où on voit les gens comme des fourmis essayer de se mobiliser pour vivre et survivre, et ce musée qui est un lieu au centre de la ville qui représentait en fait le temps, la grandeur soviétique dans laquelle on valorisait à la fois la laïcité et la science. Donc un musée qui est en perte de vitesse et aussi des gens qui sont victimes, je dirais, du nouveau système social. Et ce qui est terrible dans ce pays, c'est pas seulement la pauvreté, mais c'est aussi le déclassement social. Imaginez un médecin qui devient à la retraite, qui est obligé de retravailler à plus de 65 ans. C'est ce qui est terrible dans ce pays, c'est le déclassement social d'une catégorie de la population.
Et ce déclassement social, il date de quand ?
Eh bien, je crois que à partir du moment où l'Union soviétique s'est effondrée et qu'on est entré dans une logique de système social totalement différente et qui est inspirée de ce qu'on a appelé la thérapie de choc, c'est-à-dire qu'il fallait libéraliser, privatiser toute une partie des activités qui étaient généralement assurées par l'État, ont été réduites à néant, et donc des gens comme cette vieille dame qui était médecin ou celles qui étaient encore ingénieurs dans une usine, ont été livrées à elles-mêmes pour subvenir à leurs besoins.
Mmh. Donc on voit ici une catégorie de la population qui sont ces femmes russes, ces babouchkas qui sont exclues ou quasi exclues de cette société, dans ce musée mouroir, me disait aussi hors micro Mathilde. Et quelles sont les autres parties de la population qui sont exclues aujourd'hui au Kirghizistan ?
C'est-à-dire que la privatisation a conduit à une, je dirais, à une transformation radicale de la société, avec une radicalisation des différences sociales. Et il y a aussi un lieu très symptomatique à Bishkek, qui est un lieu qui s'appelle le marché noir du travail, où toute une partie de la population qui s'est retrouvée au chômage, des villageois qui travaillent dans les kolkhoz, les sovkhoz, donc ces fermes collectives, qui ont été poussés à l'exode rural et qui sont des journaliers qui doivent travailler dans des conditions terribles. Je me souviens, moi, par exemple, avoir croisé un enfant de 15-16 ans avec la moitié du crâne, avec une cicatrice parce qu'il avait pris une brique sur la tête. Et voilà, quoi. Donc c'est un pays qui est devenu, qui est passé brutalement d'un système social très assisté à un système social complètement dérégulé.
Mmh. Et ça touche la ville, ça touche la capitale et ça touche aussi les campagnes, à vous entendre.
Bien sûr, et puis ça touche aussi toutes les parties du pays. Et on voit aujourd'hui une forte migration vers la Fédération de Russie pour aller chercher du travail. Et on estime à 20% de la population masculine qui est obligée d'aller chercher du travail sur les marchés russes, dans le bâtiment, pour pouvoir ramener un peu d'argent dans les familles kirghizes.
Et ils vont où, ces gens ?
Généralement, ils vont dans les villes russes, travailler sur les marchés ou dans le bâtiment. Donc c'est le nouveau prolétariat dans la société russe, je dirais.
Mmh. Mais c'est loin, la Russie, parce que entre la Russie et le Kyrgyzstan, il y a encore le Kazakhstan, qui est immense.
Effectivement, certains d'ailleurs s'arrêtent au Kazakhstan, mais d'autres prennent l'avion, le train ou surtout l'autobus pour aller en Fédération de Russie où on peut y travailler et gagner un salaire plus décent qu'actuellement au Kyrgyzstan.
Alors avec vous, Boris Petrik, on a une petite demi-heure pour se faire une idée un peu plus précise de ce pays qu'on ne connaît pas très bien ici en Occident, qu'on ne connaît pas très bien ici en Suisse. Vous le connaissez bien, vous le parcourez depuis plusieurs années, ce Kyrgyzstan. Alors l'actualité, séjour à Bishkek et dans le pays, c'est, je l'ai dit en introduction de cette émission, c'est un référendum dimanche. Près de 80% des Kyrgyzes ont adopté une nouvelle constitution. Alors, première chose qu'on a lue dans la presse, c'est qu'il y a vraisemblablement eu fraude, il y a vraisemblablement eu bourrage des urnes. Vous pouvez le confirmer, vous l'avez lu aussi, vous pensez que c'est possible ?
Effectivement, j'ai pu lire j'ai eu l'occasion de discuter avec certains amis qui sont sur place depuis dimanche et qu'effectivement, un certain nombre d'irrégularités auraient été constatées par des observateurs locaux, des ONG notamment. La coalition d'ONG pour la société civile, qui est un réseau d'observateurs locaux, d'ONG, et qui décrit une fraude massive.
Mmh. Alors, ça va être difficile d'entrer dans le détail de la vie politique kirghize, qui est une vie extrêmement complexe, extrêmement compliquée. Ce qu'on peut dire de manière générale, c'est que depuis 2005, dont date à laquelle le président Bakiev, aujourd'hui au pouvoir, est arrivé au pouvoir, il y a un conflit entre le Parlement et le président. C'est un conflit qui date du moment de 2005, la révolution des tulipes, c'est ça ?
Voilà, suite à ce qu'on a appelé la révolution orange en Ukraine, la révolution aussi en Géorgie. Au Kyrgyzstan, en mars 2005, il y a eu effectivement ce qu'on a appelé la révolution des tulipes après les élections législatives. C'est-à-dire qu'au moment des élections législatives, il y a eu toute une série de contestations populaires qui se sont soldés par le départ du président Akaïev, qui a été obligé de se réfugier en Russie. Et ce mouvement a été porté par Kurmanbek Bakiev, qui a effectivement pris le pouvoir à ce moment-là. Donc il s'est retrouvé président par intérim, avec un parlement issu d'élections contestables et qu'il a lui-même contesté. Et le paradoxe, finalement, c'est qu'il a maintenu cette assemblée au lieu d'organiser immédiatement d'autres élections législatives. Donc finalement, ce référendum est le résultat de 2 ans d'une cohabitation infructueuse entre Kurmanbek Bakiev, le nouveau président suite à la révolution des tulipes, et un parlement qui était issu donc d'élections législatives contestées.
Et le président, dans la foulée, a annoncé la dissolution du parlement. Il devrait y avoir des élections anticipées pour créer un nouveau parlement en décembre. Donc apparemment, la situation va se débloquer puisqu'il y aura un parlement qui sera plus en phase avec le président actuel.
Eh bien, c'est-à-dire que le président Bakiev espère que le fait de rappeler une nouvelle fois les citoyens kirghizes à aller voter va lui permettre d'avoir une véritable majorité au Parlement et de pouvoir exercer une réelle influence sur la société kirghize. Ceci dit, aujourd'hui, ce n'est pas du tout sûr que au cours des élections de décembre, Kurmanbek Bakiyev arrive à dégager une majorité claire au Parlement qui lui permettrait d'engager une nouvelle politique.
Alors là, c'est au niveau de la politique politicienne. Comment est-ce que les gens dans la rue vivent cette situation de blocage depuis 2005? J'ai lu aussi que c'était la quatrième fois qu'on changeait de constitution. Comment est-ce que les gens dans la rue vivent cela?
Eh bien, écoutez, je crois que je dirais que les joutes électorales sont devenues un des sports nationaux au Kyrgyzstan, puisqu'on est au cinquième référendum depuis l'indépendance du Kyrgyzstan. Et je crois qu'il y a un désintérêt de la part de la population. Et s'il y a eu des fraudes massives, c'est que probablement le taux de participation était probablement inférieur à 50%, ce qui aurait invalidé le scrutin. Donc je dirais que le citoyen kirghiz s'est mobilisé au moment de la révolution des tulipes, non pas pour réclamer une liberté politique, mais pour s'insurger contre les inégalités sociales. Et je dirais qu'aujourd'hui, la préoccupation principale de la rue, c'est de pouvoir vivre correctement. Et je pense qu'il y a une forme de désaffection de la part des citoyens kirghiz face à cette multiplication d'échéances électorales.
On va écouter un peu de musique, Boris Petrik. Vous restez avec nous, bien sûr. On va écouter une chanson russe. C'est de la musique, c'est de la pop russe qu'on écoute beaucoup au Kyrgyzstan. Dites-nous peut-être avant qu'on écoute cette chanson. On a vu tout à l'heure ces femmes qui sont exclues, ces femmes russes, ces babouchkas qui sont exclues. Là aussi, dans la rue, comment se passe la cohabitation entre Kyrgyz et Kyrgyz, citoyens kyrgyz, mais d'origine russe?
Je dirais que c'est un rapport complexe. Il y a eu à la fois une fièvre nationaliste dans les premières années et donc parfois un rejet de la culture russe. Mais aujourd'hui, il y a même parfois une certaine forme de nostalgie et la langue russe reste une forme d'accès à la modernité et au monde. Et donc pour les Kyrgyz, que ce soit, et je crois que la musique illustre ce rapport au monde qui passe par la langue russe. Donc c'est un rapport complexe qui est ambivalent, à la fois de crainte, mais aussi d'attirance, quoi.
En laotien, c'est un animal qui s'appelle Odo sur l'épaule, ça veut dire. Donc c'est drôle, c'est très drôle comme émission.
Я умру без тебя.
Yatebia Loubi sur la première de la variété kirghize ramenée dans les valises de Mathilde Gohanek et de Camille Magnard, toujours avec nous par téléphone, Boris Petrik. Quand vous écoutez cette musique, vous retrouvez des ambiances, des sons, des odeurs peut-être aussi des rues de Bishkek.
Effectivement, les Kirghizes aiment beaucoup chanter et dans la rue principale de Bishkek, il y a énormément de karaoké ou de cafés, restaurants, où tout en mangeant et buvant de la vodka, on peut danser sous ces airs donc russes. Donc on voit aussi un des paradoxes, une société musulmane dans laquelle il y a un cosmopolitisme et une hybridation culturelle.
Mmh. Qui tient à l'histoire, j'imagine, de ce pays?
Et oui, puisqu'effectivement, la présence russe date de la fin du 19e siècle, et comme une babouchka le disait... Plusieurs générations de Russes sont nés en Asie centrale et donc ils se sont retrouvés un peu malgré eux parfois sur le sol kirghize. Et aujourd'hui, il faut arriver à construire un nouveau contrat social qui intègre la multiplicité culturelle, puisque au Kirghizistan, il n'y a pas seulement des Kirghizes. Il y a des Russes, des Ukrainiens, des Juifs, des Ouzbeks, des Tadjiks et toutes les nationalités qui composaient l'Union soviétique.
Mmh. Nouveau contrat social, nouvelle manière aussi de faire du commerce, puisque avant la chute de l'URSS, 98% des exportations du Kirghizistan, qui est un pays pauvre, qui est un pays qui exportait principalement de la laine, allaient vers l'URSS. Il y avait une dépendance terrible de ce pays par rapport à l'entier de l'URSS.
Alors effectivement, chaque république à l'intérieur de l'Union soviétique avait un peu une fonction économique et le Kirghizistan devait fournir de la laine à l'industrie textile soviétique. Et lorsque la crise a touché l'Union soviétique et que l'Union soviétique s'est effondrée, les Kirghizes se sont retrouvés avec leur laine et leurs moutons. Tout en n'arrivant pas à trouver d'autres marchés, je dirais. Donc petit à petit, le cheptel a disparu, puisqu'on pense qu'à peu près 80 à 90% du cheptel a disparu en 10 ans. Et les Kirghizes sont partis, je dirais, à nouveau sur les chemins et vers de nouvelles destinées pour aller capter des ressources à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'on peut parler d'une société de commerce, moi je dirais même une société de trafic, puisqu'il y a la route vers la Chine, certes escarpée avec ses montagnes, mais qui permet d'accéder à tous les petits produits chinois que l'on trouve sur tous les marchés kirghizes. Mais aussi il y a la route, comme je le disais, vers la Russie. Et il y a aussi la route de la drogue vers le sud, le Tadjikistan et l'Afghanistan. Donc ce qui est bizarre dans la société kirghize actuelle, c'est qu'elle produit très peu de choses sur son territoire. Et elle devient une société de trafic, de commerçants, et qui est illustrée par la place des marchés, des bazars, qui occupent une place centrale dans la vie sociale aujourd'hui.
Qui dit trafic dit aussi mafia, organisation mafieuse. Est-ce qu'elle est très importante au Kirghizistan?
Je crois que tout pays qui devient une sorte de pays de transit induit des situations effectivement de trafic. Où passer la frontière nécessite la création d'organisations complexes pour organiser ces trafics. Alors effectivement, on parle de mafia, je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais en tout cas, c'est certainement une société de trafic dans laquelle la manipulation des différentes marchandises permet de s'enrichir.
Alors, le Kirghizistan a cette particularité, Boris Petrik, c'est que, bon, vous l'avez dit, c'est juste à côté de la Chine, c'est pas très loin de la Russie, et puis il y a aussi des bases militaires américaines, donc bases militaires américaines et russes dans le même pays, c'est assez unique ça, je crois.
À ma connaissance, oui, c'est unique, ça reflète la situation des Kirghizes, et ce qui est étonnant, c'est que finalement, c'est les Kirghizes, donc, qui étaient des nomades. Encore récemment, ont toujours essayé de fuir l'influence des grandes puissances. Donc se sont réfugiés dans des contrées montagneuses pour fuir cette influence des grandes puissances. Alors ça, à une époque, ça a été la Chine, la Russie. Aujourd'hui, c'est le Kirghizistan et effectivement la confrontation, le théâtre d'un affrontement entre, entre la Russie et les États-Unis. Et je dirais que ces bases militaires viennent, sont le symbole de cette confrontation, quoi. Et le Kyrgyzstan est un tout petit pays, très enclavé, et devient une forme d'une scène, d'un théâtre dans laquelle les différentes grandes puissances essayent d'imposer leur vision du monde, quoi. Et c'est vrai qu'il y a la Russie, c'est vrai qu'il y a les États-Unis, mais il y a aussi la Chine, et il y a aussi les pays du Golfe à travers d'autres techniques d'influence qui essayent d'influencer l'évolution de cette région.
Boris Petrik, il nous reste quelques minutes. Je rappelle, vous êtes ethnologue au CNRS, vous êtes spécialiste de l'Asie centrale. D'autres pays d'Asie centrale et du Kyrgyzstan, qu'est-ce qui vous lie, vous, à ce pays, le Kyrgyzstan ?
Écoutez, moi, j'ai été obligé, je dirais, de remplir mes obligations militaires pour la France en 1996 et on m'a proposé d'aller travailler à l'ambassade de France à Tachkent en Ouzbékistan, et donc depuis 96 j'ai découvert cette région que je ne connaissais pas a priori
et qui vous était pas a priori sympathique non plus.
Non, enfin voilà, j'étais russophone et donc je connaissais Tachkent comme la quatrième ville d'Union soviétique, mais après j'ignorais à peu près tout et c'est vrai que c'était une période très intéressante puisque c'était le début de l'ouverture de cette région et que c'est encore, je dirais, une partie du monde qui n'est pas pervertie par le tourisme et qu'on a un contact quand même assez extraordinaire avec la population qui est d'un accueil et d'une hospitalité qui n'est pas seulement une légende. Les Kirghizes sont en plus par rapport aux autres populations d'Asie centrale particulièrement ouverts. Et je dirais que moi, ça fait plus d'une dizaine d'années que je vais dans ces pays-là. On reste pas indifférent à cette région. C'est vrai que certains n'aiment pas, certains sont exaspérés par l'aspect soviétique qui reste encore très fort, mais on reste jamais indifférent à cette région lorsqu'on la découvre. Mmh.
Vous y avez vécu, vous vivez, je crois, quand vous y allez, dans une famille qui vous a quasi adopté.
Effectivement, j'ai vécu 4 ans et un ethnologue lorsqu'il tente de saisir la logique d'une société choisit de s'imprégner des coutumes et de la manière de vivre. Donc c'est vrai que la meilleure manière souvent c'est de rester au même endroit et donc effectivement moi je me suis installé donc dans la région de Darin dans une famille d'éleveurs de moutons et de chevaux et effectivement et donc à un moment donné il faut avoir sa place, il faut avoir son statut et donc le chef de famille m'a donné un statut et donc il m'a adopté comme son fils et donc effectivement j'ai un père, une mère, des frères quoi. Mais pour eux la parenté est une manière d'exprimer des liens forts et de donner un statut à tout le monde pour organiser, je dirais, l'ordre social, quoi.
Et comment est-ce que vous voyez l'avenir de votre père, de votre mère et de vos frères de ce pays, le Kyrgyzstan ?
Écoutez, moi je suis de nature optimiste et je pense que même si actuellement le Kyrgyzstan traverse une forme d'instabilité, ce qui n'est pas forcément négatif, c'est que ça montre justement qu'il y a une vitalité politique, hein. L'Ouzbékistan à côté est peut-être beaucoup plus stable, mais avec des à côté beaucoup plus inquiétants. Le Kyrgyzstan aura des ressources pour vivre, même si c'est tout de même une situation difficile, et peut-être que le tourisme et le joyau qu'est la nature et les montagnes kirghizes vont peut-être devenir un Eldorado et peut-être une nouvelle Suisse de l'Asie centrale.
Merci beaucoup, Boris Petrik, d'avoir été avec nous. Je vous souhaite un excellent après-midi.
Merci à vous.
Au revoir. s'appelle Song of Nomads. C'est signé Ordo Sakna. Si vous souhaitez poursuivre le voyage, réentendre l'émission, la télécharger, si vous souhaitez également réagir, il y a notre site internet dromadaire.rsr.ch. Merci aujourd'hui à Jean-Claude Gailly en régie, à Stéphanie Coudray, notre assistante de production, Nathalie Schoenberg qui a choisi ses musiques, Denis Sulam, responsable de notre site internet, et Monsieur T qui a réalisé les carnets de route. Demain, on part au sud du Kirghizistan, dans la vallée d'Aksaï, tout près de la frontière chinoise. Ce sera pour le reportage. Et puis, nous serons en direct de Douchanbé avec Bernard Repon, un Suisse passionné par le Kirghizistan. Il y organise des festivals. Il y construit aussi des ponts. Et puis après, les informations pour Histoire Vivante, c'est Jean Leclerc que vous retrouvez. Jean Leclerc qui, toute cette semaine, réouvre le dossier du Watergate. Cyril Desprats, Mathilde Gohanek et Camille Manière, on vous souhaite un excellent après-midi. Il va être 19h à Bishkek, 15h sur la première.